Bienvenue sur la Com en Live, l'émission qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité communautaire du consistoire israélien libérin.
Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Judaïka pour ce nouveau numéro de la Com en Live. Et aujourd'hui, à titre tout à fait exceptionnel, je suis seul puisque notre ami Olive est en voyage. Et nous allons commencer cette émission aujourd'hui par les news du rabbinat.
Et news du rabbinat.
Boker Tov, monsieur le rabbin Gatzebag.
Boker Tov, monsieur le grand rabbin, comment allez-vous ?
Voilà, très très bien, on est très content de vous avoir au téléphone et je voulais qu'on parle ce matin de quelque chose qui va peut-être un petit peu surprendre nos auditeurs, puisque nous allons parler en plein mois de janvier des fameuses matzot.
Tout à fait, tout à fait. Alors on a eu la chance de, voilà, d'entamer la... Alors l'équipe de Lehman, on a commencé la grande campagne de matzot, donc ça a commencé jeudi dernier, où on a fait la cacherisation donc de toute leur usine, cacherisation avec un karcher qui monte à plus de 150 degrés, donc c'est une vraie cacherisation vraiment parfaite. Et dimanche matin, on a eu la première production de matzot, et ce matin, au lever, nous faisions la première matzah pour le seder, la matzah, fameuse matzah shmuro, pour le seder, celle que nos auditeurs vont sûrement déguster le soir de Pessah.
Alors, monsieur le rabbin, on fera sûrement, une émission consacrée à Pessah et consacrée plus largement aux matzot, et puis on se permettra peut-être même, si elle l'accepte, d'inviter Isabelle Eumann, hein, puisque les établissements Eumann sont le dernier établissement aujourd'hui sous la surveillance du Beit Din de Strasbourg. Mais j'aimerais peut-être, puisque nous avons commencé donc ce matin la fameuse campagne des matzot shmurot, ces fameuses matzot spéciales seder, que vous nous parliez de ces matzot shmurot. Qu'est-ce qu'elles ont de différent des matzot traditionnelles et surtout au niveau, concrètement au niveau de leur fabrication?
Alors, ce qui est très, très particulier dans la matzah shmurot, c'est que c'est un blé. D'abord, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit, on est en janvier, mais en fait, Pessah a commencé pour la matzah shmura, en l'occurrence, elle a commencé depuis juillet, lorsque on a reçu le coup de fil donc de cet agriculteur en pleine Alsace, parce que c'est du blé 100% alsacien, en pleine Alsace, qui nous appelle pour nous dire que son blé, il est arrivé à un certain degré de maturation suffisant, qu'il n'a pas plu les 72 dernières heures, et donc ce blé, il est bien sec, il n'a pas été mouillé, parce qu'on sait que dès que de l'eau est en contact avec du blé ou de la farine, et ben ça rend le blé inapte à la préparation de la matzah. Et donc en juillet, et ben ce blé a été moissonné spécifiquement avec l'intention de le faire à l'intention de la matzah qui va orner nos tables de Pessah. Et ce blé, il est bien gardé dans un endroit secret, entre guillemets, en pleine Alsace toujours, et il est moulu à nouveau en pleine Alsace, avec toujours cette volonté de le faire dans l'intention de pouvoir accomplir la magnifique mitzvah de matzah. Et ensuite, à nouveau, il est transporté toujours avec des règles drastiques d'assurance pour s'assurer qu'aucune humidité intempestive vienne rendre inapte la farine. Et elle est pesée à la main pour la matzah shmuro. Elle est pesée à la main. L'eau est mise par le surveillant et elle est faite en moins de 18 minutes. Avec toutes les règles de l'art. La machine est nettoyée toutes les 18 minutes pour s'assurer qu'il n'y a pas des résidus d'une matzah qui aurait déjà commencé à fermenter. Et donc cette matzah shmuro, elle est depuis sa moisson jusqu'à sa mise en boîte, elle est particulièrement surveillée et particulièrement, j'ai envie de dire, couvée, avec l'intention de pouvoir avoir une matzah spécifiquement préparée pour la mitzvah du soir du Seder. C'est toute la particularité de la matzah Shmura, c'est qu'elle est, elle est intentionnellement préparée, et elle n'est pas juste kasher les Pessah, elle est intentionnellement préparée pour faire la mitzvah. C'est ça qui rend toute la, il y avait une dynamique et une forme d'angoisse très positive, mais très, très joyeuse ce matin à l'usine, de cette joie de pouvoir, participer comme ça à cette, à l'élaboration de la première matzah Shmura. Alors c'est intéressant de voir que même les non-juifs qui y travaillent, il y a un non-juif là-bas, c'est sa 28e campagne de matzot. Et donc, il prononce ça comme un bon Alsacien. Ce matin, c'est la Shmura. Et donc, il met l'accent tonique sur le haut de la fin du mot qui montre vraiment qu'on est dans le côté vraiment ancestral et profonde de la mitzvah telle qu'on l'a faite depuis des siècles en Alsace et ailleurs. Donc cette joie palpable de toute l'équipe était vraiment communicative, et même s'il était tôt, il faisait encore un peu nuit et on avait les yeux qui piquaient un petit peu, ben cette joie était communicative, et j'avais un petit avant-goût de Pessah dans ma bouche, parce que j'ai pas goûté la matzah, mais les travailleurs là-bas l'ont goûté, ils ont dit qu'elle était très bonne, donc ils nous ont promis une très bonne matzah. Et j'avais presque envie de chanter Manishtana ce matin.
Parce que c'est un bon millésime alors 2023. Après.
Voilà, c'est un très bon millésime, exactement. Un bon blé d'Alsace qui est bien travaillé dans la magnifique usine de Mann. Et voilà, une bonne matzah, et avec une équipe vraiment joyeuse de pouvoir participer à leur manière à nos fêtes.
Voilà, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler aujourd'hui parce que les gens ne s'imaginent pas que cette campagne commence déjà des semaines, voire des mois avant Pessah. On ne fabrique pas toute cette quantité de matzah en l'espace d'une semaine. Il faut savoir que dans les grosses usines, que ce soit en Israël, aux États-Unis ou ailleurs en Europe, où on fabrique des matzot en quantité astronomique, les usines travaillent quasiment pendant toute l'année. Donc, on commence à fabriquer vraiment très très tôt déjà les matzot qui seront utilisés pour le CDR suivant, et c'est tout, bien sûr, toute une organisation, et surtout dans cette usine de Soultz-sous-Forêt où il faut cachériser, puisque même si des matzot sont produits toute l'année, ce ne sont pas nécessairement des matzot qui sont cachères les Pessah, avec donc la surveillance, le nettoyage qui s'impose, et puis l'utilisation surtout des matières premières, hein, puisque même si une matzah de Pessah c'est du pain et de l'eau, et que les matzot qui sont fabriqués pendant l'année ne diffèrent pas beaucoup au niveau de leurs ingrédients de ces matzot de Pessah, il y a néanmoins une farine spéciale qui est utilisée pour Pessah, y compris, je le rappelle, pour les matzot qui ne sont pas des matzot dites shmurot, avec une surveillance qui n'intervient pas depuis la moisson en ce qui concerne la farine, mais qui intervient un peu plus tard dans le processus d'élaboration de la farine. Et je crois que c'est important de le rappeler aux personnes qui nous écoutent. Surveiller des matzot pour Pessah, ce n'est pas simplement mettre un surveillant en place dans l'usine qui va surveiller le processus de fabrication depuis le moment où on va mélanger l'eau et la farine. Mais c'est bien en amont, déjà depuis le moment de l'élaboration de la farine elle-même, qu'intervient notre surveillance. Je peux vous dire que c'est fait dans des conditions qui sont tout à fait exceptionnelles. Il faut aussi rappeler, Monsieur le Rabbin Sebag, c'est peut-être important de le dire, qu'il a fallu s'adapter ces dernières années avec des fournisseurs qui ont changé. Bien sûr, le Covid aussi a été pour quelque chose. Donc il y a eu beaucoup de frayeurs. Ces frayeurs ont été très importantes pour les établissements Eumann, hein, qui ont eu à faire face à des pénuries, à des denrées, à des retards de livraison, un petit peu ces problèmes qui touchent toute l'industrie et toutes les entreprises. Et donc, il faut un petit peu composer avec toutes ces données. C'est pas évident, mais on fait en sorte, et c'est la raison pour laquelle on se voit toujours bien en amont pour des réunions de travail et de préparation de cette campagne. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'y participer moi-même cette année, comme j'y participe chaque année, pour bien mettre à plat, sans mauvais jeu de mots, hein, lorsqu'on parle des matzot, avoir des matzot bien plates, pour bien mettre à plat les différents problèmes et ne pas être pris au dépourvu si jamais. Alors il y a toujours des problèmes qui peuvent survenir, mais en tout cas qu'on les ait anticipés le plus possible. C'est très important. Je rajoute aussi une chose, j'ai eu l'occasion de voir ces nouvelles installations et je veux souligner parce qu'on a On a rappelé il y a quelques instants toute la bonne humeur et tout l'enthousiasme de l'équipe et de certains salariés qui travaillent depuis près de 30 ans maintenant dans les établissements Eumann, mais rappeler aussi la bonne volonté des dirigeants de l'entreprise qui font en sorte chaque année de pouvoir améliorer quelque chose. Et on peut toujours faire encore un peu mieux dans le niveau de Hydour, même si le niveau est déjà excellent. Et cette année encore, il y a une petite amélioration technique qui a été réalisée au niveau du four. Et vraiment, je crois que c'est tout à l'honneur des établissements Eumann de chercher, malgré les difficultés, malgré la conjoncture actuelle, de chercher toujours à faire mieux et à viser l'excellence. Voilà, je pense que c'était important de le souligner. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé du lancement de cette campagne.
Avec plaisir, Monsieur le Grand Rabbin. Et si déjà on parle de tout ce qui est fait en amont, alors étant donné qu'à côté de Eumann, alors j'ouvre une toute petite parenthèse, sur la route entre Eumann et Strasbourg, eh ben, il y a l'établissement Müller, alors qui produit, qui cachérise de la viande. Alors je me suis arrêté, bien entendu, pour voir comment tout se passait. Et voilà, tout ce travail qui est fait en amont...
C'était à l'aller ou au retour, ça, monsieur le Rabbin?
J'ai été au retour. Mais du coup, on se rend pas compte, parce que nous, on va dans le supermarché cachère, on prend notre boîte de matelas, on prend notre viande sous vide, et on n'a aucune espèce d'idée, souvent, malheureusement, de tout ce qui a été fait en amont. Voilà, donc la matza depuis juillet, la matza avec 3-4 personnes qui ont dû intervenir, comme vous le dites, à la dernière minute, avec des améliorations qui sont perpétuelles, et la même chose pour la viande. Donc c'est une vraie angoisse au jour le jour du bien-être de la communauté et de pouvoir rentrer dans les détails pour que la communauté juive de Strasbourg soit servie au mieux avec des produits de qualité et qui n'ont pas traversé le monde entier, mais qui ont une grande qualité, qui sont proches de chez nous et avec un travail qui est fait avec beaucoup de précision et de savoir-faire.
Ben merci beaucoup, et puis j'en profite aussi pour remercier, puisqu'on a parlé des surveillants qui font partie intégrante de cette chaîne de production. Et je pense notamment à M. Lévy, hein, notre surveillant des matzot, qui fait un travail remarquable. C'est un travail fastidieux, hein. Faut se lever tous les matins de très bonne heure. Il faut avoir une grande résistance. Ce sont de longues heures de travail. Il faut une grande vigilance. Et c'est aussi très physique. Donc on le remercie parce qu'il est, il est le garant finalement de la cacheroute, bien sûr. Avec la supervision du Bedin de Strasbourg, de son surveillant général et de l'ensemble de l'équipe, du Hav Bedin et de l'ensemble de l'équipe de la cacheroute. Mais il est le garant au quotidien, sur place, de la cacheroute de ses matzot. Et il est tout à fait remarquable dans son travail.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le Rabbin Sovag.
Avec plaisir, monsieur le Rabbin.
À bientôt.
Portez-vous bien. Bonne émission. Au revoir.
Le bénévole de la semaine.
Même quand Olivier n'est pas physiquement avec nous dans ses studios, il est avec nous par la voix du jingle. Et nous accueillons ce matin, comme Olivier a l'habitude de dire, non pas le bénévole de la semaine, mais la bénévole de la semaine, nous accueillons Liron Gutman. Bonjour Liron.
Bonjour Monsieur le Grand Rabbin.
Alors Liron Gutman, que certains connaissent mieux sous le nom de Liron Dahan, puisqu'avant d'être Liron Gutman, elle était Liron Dahan. Il y en a peut-être beaucoup à Strasbourg qui la connaissent sous ce nom. Elle va se présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas. En tout cas, on est très heureux de l'avoir avec nous dans ces studios de Radio Judaïka.
Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Liron Dahan, épouse Gutman. Voilà, et du coup, je suis bénévole au sein de l'association Zichron Menachem.
Voilà, alors l'association Zichron Menachem, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on tenait absolument à en parler plusieurs mois avant un grand événement qui va avoir lieu à Strasbourg et dans notre région, un événement qu'on attend avec impatience, qui est le camp d'été de Zichron Menachem. Et bien sûr, avant de parler de ce camp, on a tous encore en tête, en mémoire, en tout cas, moi, à titre personnel, c'est le dernier camp de 2018, puisque c'est le seul auquel j'ai pu participer physiquement, même s'il y en a eu d'autres avant, dans notre belle région d'Alsace. Mais j'aimerais, Liron, que vous nous parliez de Zichron Menachem, que vous nous disiez qu'est-ce que cette association fait, comment est-ce qu'elle a été créée, comment est née sa branche française. Et voilà, on veut tout savoir sur Zichron Menachem.
Alors, donc Zichron Menachem est une association qui a été créée par Chaim et Miri Herenthal suite au décès de leur enfant Menachem. Donc Zichron Menachem, ça veut dire le souvenir de Menachem. Donc ils l'ont créé à la suite de son décès, du coup d'un cancer. Ils s'étaient rendu compte que pendant toute la maladie, bien évidemment pour l'enfant qui est à l'hôpital, en soins, c'est très dur parce qu'il ne voit que ça, que le milieu hospitalier. Et pour les parents, ils n'ont pas énormément de temps pour eux en tant que couple et pour les enfants, les autres enfants de la famille. Et donc ils se sont dit qu'il fallait créer une association qui puisse venir en aide à chacun de la famille quand malheureusement il y a un événement pareil qui arrive au cours de la vie. Donc ils ont créé Zichron Menachem, qui existe dans tout Israël et qui a plusieurs centres de jour où déjà dans un premier temps les enfants hospitalisés peuvent sortir et venir se changer les idées là-bas avec des salles de sport, des salles de musique, des salles artistiques, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et bien évidemment, ils prennent aussi en charge les autres frères et sœurs. Ils leur proposent des séjours pendant l'année. Ils proposent aussi des séjours aux parents.
On oublie souvent les frères et sœurs, voilà, qui vivent aussi un chamboulement terrible lorsqu'un
tout à fait
une personne de la fratrie est touchée par la maladie. Les frères et sœurs sont souvent un peu délaissés par les parents qui doivent s'occuper quasiment à plein temps de l'enfant qui est malade. Et donc, c'est important de s'occuper d'eux aussi.
Voilà. Et donc, du coup, ils prennent aussi en charge les parents. Ils les envoient, la dernière fois, c'était à Londres. Et pendant ce temps où les parents sont à l'étranger quelques jours pour se retrouver, il y a des moniteurs et des monitrices qui vont à la maison pour s'occuper des autres frères et sœurs et que la maison puisse continuer à tourner malgré le fait que les parents soient partis quelques jours pour retrouver un petit peu des forces. Et donc chaque été, ils proposent aux enfants, pour le coup malades, un camp d'été, voilà, d'une semaine, qui est toujours à l'étranger. Donc soit à Londres, soit à Amsterdam et depuis maintenant quelques années, à Strasbourg. Alors comment c'est né à Strasbourg, c'est que il devait aller à Londres et c'était la période des JO, donc c'était impossible d'aller à Londres et quelqu'un avait parlé à Monsieur Herenthal de Maurice Dahan, notre cher président,
qui est l'oncle. Voilà. L'Iran, mais voilà, l'Iran se débrouille parfaitement bien toute seule, mais c'est pour comprendre l'engagement communautaire que l'Iran a puisé pas simplement chez son oncle, hein, chez son père aussi, Simon, qui est un vrai militant communautaire. Chez Dahan, on est des militants communautaires. Et donc, quelqu'un avait parlé à M. Herenthal de Maurice.
Voilà, et donc, du coup, M. Herenthal avait appelé Maurice. Alors, il faut imaginer la scène, hein. Voilà, bonjour. On a l'habitude, on s'occupe des enfants malades et puis on a l'habitude de faire un camp où on emmène 130 enfants malades. Donc pas en rémission, hein, c'est important. Ça veut dire que c'est vraiment des enfants qui peuvent avoir une chimio pendant le camp d'été. Et pendant une semaine, on va leur faire faire toutes les activités possibles et inimaginables. Et donc on voudrait venir à Strasbourg.
Alors à mon avis, j'imagine la réaction de Maurice. Maurice répond en moins de 3 secondes. Écoutez, il n'y a pas de souci, on vous accueille. Voilà, dites-moi ce qu'il faut faire, c'est OK.
Je crois qu'il a dit, pas vous êtes fous, mais pas très loin, mais OK, on va le faire. On va venir en Israël vous rencontrer quand même, et puis on va vous aider.
C'était pour l'année même
Pour l'année. Et donc, bien sûr, Maurice a voulu aussi ramasser du coup tous les fonds pour l'organisation. Et depuis, tous les 3-4 ans, donc à cause du Covid, ça a un peu traîné, mais tous les 3 ans, ils viennent à Strasbourg. Et donc, cet été, en juillet, nous aurons le plaisir de les recevoir de nouveau pour une semaine.
Alors, faut imaginer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce camp Zichron Menachem, que c'est une organisation qui dépasse l'entendement.
Voilà.
Alors déjà, on a un avion El Al spécialement affrété. Alors je ne sais pas si ça sera le cas cette année, mais en tout cas, c'était le cas en 2018.
Ouais, ouais.
C'est un moment inoubliable qui atterrit sur le tarmac d'Ensheim. Alors à Ensheim, malheureusement, il ne se passe plus grand-chose. Donc on a de la place et on a le temps pour faire atterrir des gros porteurs. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir un avion El Al qui atterrit, donc spécialement, bien sûr, affrété, qui atterrit à Strasbourg. Mais cet avion n'est pas un avion classique. C'est un avion qui est totalement équipé pour pouvoir transporter ses enfants malades. C'est combien de personnes qui voyagent, Iran? Parce qu'on a une centaine, un peu plus de 100 enfants malades.
130
enfants.
Mais après, bien sûr, il y a
presque autant d'accompagnateurs.
Voilà, il y a tous les moniteurs, monitrices, il y a les infirmiers et bien sûr les médecins, les oncologues qui nous suivent c'est tous des médecins.
C'est un très gros staff. Hein.
Ah oui, énorme. Donc qui viennent, qui prennent une semaine de congé, mais qui travaillent dans tous les grands hôpitaux d'Israël et qui prennent cette semaine pour venir accompagner les enfants et pouvoir les soigner encore pendant cette semaine-là.
Alors c'est un hôpital ambulant, hein, ça c'est, je veux dire, vraiment on ne peut pas s'en rendre compte si on ne le voit pas de ses propres yeux.
Tout à fait.
C'est un hôpital ambulant qui est transporté à l'intérieur de cet avion et qui sera transporté par la suite avec les enfants au cours de leur séjour,
voilà.
Lors de leurs différents déplacements, du matériel dernier cri pour pouvoir faire des analyses médicales, des analyses de sang tous les jours. Voilà, quelque chose de, je vous dis, de phénoménal, vraiment, il faut le voir, et qui permet à des enfants, disons-le, hein, qui sont des enfants vraiment malades, gravement atteints, pour certains sur des chaises roulantes, certains avec bien sûr des perfusions en permanence, mais de leur donner la possibilité de passer le séjour le plus merveilleux possible, le plus magique possible. Ces enfants doivent revenir avec des étoiles dans les yeux, ils reviennent avec des étoiles dans les yeux, on voit le plaisir qu'ils prennent à effectuer toutes ces activités, sachant que on fait en sorte, et toute l'équipe, tout le staff fait en sorte que ces activités soient exactement les mêmes que pour des enfants.
C'est
valide.
Exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on s'inspire même du programme du centre aéré pour avoir des idées. C'est exactement les mêmes. Le seul moment pendant la semaine où ils se rappellent, entre guillemets, qu'ils sont malades, c'est le matin pendant la visite médicale.
Bien sûr.
Mais après, tout est fait en sorte que... Eh ben, ils essayent, en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils oublient et qu'ils aient seulement le sourire. Et cette semaine, elle n'est même pas juste pour ça. On se rend compte même à leur retour en Israël que des fois même leur prise de sang, leur résultat s'améliore, pas grâce à un médicament, mais juste grâce au fait qu'ils sont
le
sortis.
Mental.
Voilà, le mental, que ils ont eu une semaine où ça a chanté pendant vraiment... toute la journée, qu'il y a même des enfants qui remangent alors qu'ils n'avaient aucun appétit à cause de tous les traitements. Et voilà, vraiment, tout est fait en sorte, vraiment, du repas à l'animation, au staff, à l'encadrement, tout est fait en sorte que ce soit une semaine de fête toute la journée. Voilà, ça ne s'arrête pas.
Alors, cette cause est tellement belle qu'on imagine qu'elle fédère. Et j'ai le souvenir, je me rappelle en 2018, lors de la préparation de ce fabuleux camp, que beaucoup de bénévoles strasbourgeois s'étaient réunis, avaient donné de leur temps pour aider à la fois la préparation du camp en amont, mais également pendant toute la semaine de camp, apporter un soutien logistique. On aura encore besoin de bénévoles cette année. Alors, je vais poser une question, à mon avis, que beaucoup de personnes se posent. C'est avec le nombre de bénévoles qui existent déjà et qui ont sans doute déjà annoncé vouloir participer, donner de leur temps, Liron, est-ce qu'on a encore besoin de bénévoles ? Et si une personne qui nous écoute a envie d'être bénévole, que ce soit pour la préparation de ce camp ou durant la semaine du camp lui-même, est-ce qu'elle peut le faire et comment est-ce qu'elle doit se manifester ?
Alors, on a toujours besoin de bénévoles. On trouve et on trouvera du travail pour tout le monde. C'est vraiment une semaine qui nous prend beaucoup de temps pour organiser, parce qu'il y a aussi, bien sûr, le fait qu'on va essayer de lever tous les fonds possibles pour que le camp soit complètement pris en charge par Strasbourg. Tout au long de l'année, on organise aussi plein d'événements. Et donc, on a besoin de bénévoles maintenant et pendant la semaine. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Maurice, moi, vous trouverez nos numéros un peu partout. Il n'y a aucun problème. Et surtout, n'hésitez pas, parce que même pour une expérience personnelle, je trouve ça vraiment que c'est une expérience exceptionnelle. Et donc, du coup, on vous invite vraiment à nous rejoindre.
On en ressort bouleversé. On en ressort grandi, parce que ce n'est pas nous, en réalité, qui donnons de la force aux enfants, mais c'est vraiment les enfants qui nous donnent la force. Enfin, c'est
Exactement.
Ce qu'on sent après avoir passé cette semaine avec eux. Et la sensation aussi que j'avais eue, qui est bouleversante, c'est qu'on n'en ressort pas forcément avec un sentiment de tristesse. Forcément, ça peut être dur de prime abord, ce contact avec des enfants. On a toujours beaucoup de mal et c'est quelque chose de très difficile à accepter dans notre société, des enfants qui sont malades. C'est quelque chose que l'on ne souhaite bien sûr à personne. C'est une épreuve terrible pour des parents. Mais en même temps, très rapidement, la joie de vivre de ces enfants, l'ambiance qui règne au sein de Zichron Menachem, la joie également des madrichim, des madrichot, qui eux vivent cela au quotidien avec ces enfants, fait qu'on oublie presque cette maladie pour se prendre au jeu de Zichron Menachem, de ce camp de vacances. Et c'est une ambiance très festive, très joyeuse, durant laquelle on oublie... je dis, on oublie presque que les enfants sont malades, et si ce n'est donc ces soins du matin, avec quelque chose d'extraordinaire, en tout cas à mon sens, qui se dégage vraiment de ce camp. Alors, on a dit bien sûr un soutien logistique, un soutien de bénévoles qui est très important. Il y a toujours besoin de fonds, il y a besoin d'argent. Donc là aussi, je pense qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent que si elles souhaitent donner à Zichron Menachem, elles peuvent le faire.
Tout à fait.
Les coordonnées, je pense qu'on les trouve sur le site, on les trouve un peu partout. Il y a beaucoup de pubs également dans le Shabbat Shalom. Voilà. Il y a des affiches un petit peu partout dans la ville. Il y a les réseaux sociaux. Et donc, vous avez la possibilité, au travers de ces différents liens qui vous sont proposés, de faire des dons qui serviront pour les enfants. Bien sûr, ces dons sont déductibles.
C'est très important, juste de le préciser, c'est que 100% des dons sont utilisés. Voilà, parce que tout le monde est bénévole dans l'association et les 100 euros, par exemple, que les gens donnent, ce sont vraiment 100 euros qui iront pour l'enfant.
Pour l'enfant.
Pour son activité, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est vraiment 100%. Et on vous invite dès ce samedi soir, parce qu'on fait du coup notre première activité de cette année en vue du camp de cet été, au tournoi de foot en salle, qui aura lieu du coup ce Motsé Shabbat, au gymnase de Menorah. On y sera de 18h à 22h30. Alors les équipes sont complètes, mais on vous invite à venir les encourager, boire un petit verre avec nous, parler de l'association si vous voulez, et voilà, venir vous imprégner un petit peu de l'ambiance Zichron Menachem.
Donc c'est parti, on vient de parler il y a quelques instants des matzot. De la manière que la campagne des matzot a démarré, la campagne de Zichron Menachem a aussi démarré, et je pense qu'on va voir dans les prochaines semaines l'Iron à Strasbourg, soit dans les magasins Kacher ou autres, les fameux t-shirts verts de Zichron Menachem qui nous rappellent que le camp va bientôt démarrer et qu'on aura, je considère que c'est un privilège à Strasbourg d'accueillir ces enfants, de partager des moments avec eux. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, si vous ne connaissiez pas l'association ou même si vous la connaissiez mais que vous n'avez pas osé franchir le pas pour donner de votre temps ou, ce qui est également très important aussi, on l'a rappelé, donner de votre argent, eh bien n'hésitez pas à le faire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Liron
merci
d'avoir été présente avec nous ce matin et je pense qu'on aura l'occasion d'ici le camp de cet été de refaire une émission pour parler de Zichron Menachem parce que c'est une association qui vaut vraiment le coup qu'on s'engage pour elle. Merci beaucoup.
Merci.
Stéphane, qu'est-tal?
Stéphane, qu'est-tal?
Comment ça va, monsieur le grand?
Tu t'y attendais pas à celle-là?
Ah non, celle-là, je m'y attendais pas, non.
Eh bien, on est ravis de te retrouver, comme chaque semaine, pour nous parler un petit peu de l'actu consistoire, l'actu jeunesse.
Eh ben, l'actu concernant l'actu jeunesse, avec grand plaisir. On a, dès ce samedi, on a Shabbat, comme d'habitude, on a Kiddush Zado, ce Shabbat matin. Et on aura Shabbat soir, une sortie avec les soirées Noah au karting, donc pour les ados également. Et on aura, par la suite, semaine prochaine, on aura un repas le 21. Le 21 janvier, donc Shabbat prochain, on aura la chance de pouvoir effectivement faire un repas de jeunes couples de 20 à 49 ans, ou bien entre potes, ou entre couples, ce que vous voulez, pour une soirée italiano et réalité virtuelle. Voilà.
Cette soirée s'annonce très très sympathique. Moi, je pense que je vais personnellement m'y inscrire parce que ça me donne très envie. Et lorsqu'on regarde l'affiche, voilà, que vous pouvez découvrir dans le Shabbat Shalom, elle est plus belle d'ailleurs dans le Shabbat Shalom en version virtuelle puisqu'on l'a en couleur. Dans le Shabbat Shalom version papier, vous la retrouverez en noir et blanc. C'est une très belle affiche et qui donne vraiment envie de venir avec un concept tout à fait inédit. Et je crois que c'est ta grande force, Stéphane, c'est d'essayer de chercher à avoir des concepts inédits, à faire des soirées nouvelles pour ne pas que les gens se lassent. Et on ne se rend pas compte de la difficulté. C'est très difficile d'avoir de nouvelles idées à chaque fois. Mais ça permet de faire venir un maximum de personnes. Et Stéphane, on peut aussi peut-être, même si on n'en a pas encore dessiné les contours, rappeler à nos auditrices, à nos auditeurs que nous fêterons bientôt, nous célébrerons bientôt Tu Bishvat, et que depuis quelques années maintenant, nous avons souhaité donner aussi une tournure particulière à cet événement qui passait un petit peu inaperçu pendant des années. Il n'était pas forcément célébré comme il se doit, et c'est l'occasion aussi de retrouvailles communautaires. Donc cette année Tu Bishvat, ce sera le dimanche 5 février et nous vous annoncerons donc très bientôt, sans doute dès la semaine prochaine. Voilà, quel sera le programme de Tu Bishvat cette année pour que, comme les années précédentes, et je me suis fait un petit plaisir et hier, j'ai revu les photos des événements de Tu Bishvat qui ont été organisés les dernières années. Et j'espère donc, d'ailleurs je n'en doute pas une seconde, que cette année, nous trouverons encore une fois une merveilleuse idée pour rendre cet événement le plus sympathique, le plus convivial possible et rassembler un maximum de personnes. Ça se passera le dimanche 5 février, mais ça approche à grands pas, donc on peut déjà en parler.
C'est ça, et puis entre-temps, on aura aussi, on va accueillir également Michael Blum, le Shabbat 28 janvier, qui viendra nous parler des enfants cachés pendant la Shoah.
D'accord.
À Strasbourg, le Shabbat. Donc ça aussi, ce sera un moment important. Et puis, une des prochaines soirées culture qui va se dessiner également, on vient de le définir également ces jours-ci, c'est le professeur Bensoussan qui viendra également à Strasbourg au consistoire pour nous parler de ses livres.
Georges Bensoussan. Voilà, c'est un invité, je pense, de marque, que tout le monde connaît, qui n'a pas eu l'occasion de venir très souvent à Strasbourg ces dernières années. Et je pense que c'est une très bonne chose de le faire venir, qu'il puisse partager avec le public strasbourgeois un maximum d'idées autour de ses derniers ouvrages.
Voilà, et après, on travaille sur d'autres projets jeunesse également, puisque on va également avoir une soirée sur le thème du Lego. J'en dirai plus dans les prochaines semaines.
Ça va plaire à mes enfants, ça.
Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va travailler très prochainement, en tout cas.
Ben ça nous donne, alors j'ai pas envie de dire l'eau à la bouche, qu'ils allaient des Legos, mais en tout cas, on est impatients de savoir ce qui se dessine derrière ce projet. Peut-être un dernier mot, Stéphane, sur un événement qui a cartonné Shabbat dernier. J'ai oublié de poser la question au rabbin Gatzobag que nous avons eu tout à l'heure en ligne. C'était le Shabbat plein qui a été organisé par l'Office Weiler autour du couple Avraham et Maria Chadré. Et ça a été une très très belle réussite. Moi, j'ai eu l'occasion de venir les saluer Shabbat matin, juste avant qu'ils ne commencent le repas shabbatique. J'ai vu beaucoup de monde dans la salle Blum. J'ai vu une ambiance très festive et très très conviviale. Et peut-être tu peux nous dire un mot, un retour par rapport à ce Shabbat.
Oui, c'est clair qu'il y avait. C'est un Shabbat de vie, c'est un Shabbat de partage, avec des invités effectivement qui sont connus de Strasbourg, puisque Maria Chadré est originaire de Strasbourg. Donc ça, c'est une certitude. Ça attire. Je crois que la définition du couple et la famille, ça attire toujours un public important. Et je crois qu'ils ont fait ça le comble et que c'était un vrai succès pour toutes leurs activités, que ce soit pour le Shabbat, mais également pour le Shabbat, Motsé Shabbat, et également dimanche matin. Et je crois que pour ça, il faut qu'on tire un coup de chapeau au rabbin Sebag, évidemment, qui était à l'origine de ce projet et qui a été, je crois, très 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 bien épaulé par Chloé Blum, à qui il faut également tirer un grand chapeau, un coup de chapeau pour cette belle réussite et qui en amènera d'autres, puisqu'effectivement, c'est des concepts qui fonctionnent et ça touche un public particulier. Et c'est pour ça que chaque Kaalim, chaque entité, le consistoire en lui-même, se donne à réfléchir pour essayer de toucher un maximum de gens de notre communauté via différents projets, que ce soit culturels, cultuels, ou plus animation, et histoire que tout le monde soit satisfait de ce qui est proposé.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane, merci pour cette intervention brillante comme d'habitude, et on te laisse retourner à tes activités professionnelles, puisque contrairement à ce que certains imaginent, au grand fantasme de la communauté, Stéphane a une vie en dehors de celle du consistoire.
Heureusement.
Voilà, Stéphane travaille et Stéphane a d'autres occupations qui lui prennent beaucoup de temps. Et ce qui ne fait d'ailleurs, j'ai envie de dire, que mettre en lumière le travail que tu effectues au sein du consistoire. Parce que lorsque l'on connaît ta vie professionnelle à côté, on trouve tout à fait formidable que tu puisses consacrer autant de temps au consistoire. Donc on te laisse tout de suite retourner à ton travail, à tes activités. On te remercie pour ta participation. Bonne journée.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Le pro de la semaine.
La pro de la semaine, et une Gutmann peut en cacher une autre. Nous avons accueilli il y a quelques instants dans ce studio Liron Gutmann, et nous avons le bonheur de finir cette émission aujourd'hui avec une autre Gutmann, une légende de notre communauté. Il s'agit de Claudine Gutmann. Bonjour Claudine.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors Claudine, on veut tout savoir. Tout le monde connaît Claudine parce que Claudine travaille à la communauté depuis, on n'ose presque pas le dire, elle va nous le dire dans quelques instants. C'est des plus anciennes du consistoire israélite de Strasbourg. Mais aujourd'hui, on ne veut pas simplement savoir qui est Claudine en tant que secrétaire comptable du consistoire israélite de Strasbourg, on veut savoir tout simplement qui est Claudine. D'où venez-vous? Qui êtes-vous?
Ah, c'est une bonne question parce que en même temps, depuis que je suis arrivée en 1982,
j'étais pas née, Claudine.
Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Ils connaissent pas mon nom, ni peut-être pas mon prénom. Donc, je me présente. Je suis Claudine Gutmann. Je suis de Mulhouse. Où mon papa était Razan. Et ben voilà, la communauté, ça a toujours été dans l'esprit de la famille. Et ben me voilà arrivé en 82 ici, et puis ben j'y suis toujours.
Et donc vous êtes rentré au consistoire immédiatement à votre arrivée à Strasbourg?
Ah oui.
Donc vous faites le calcul, à 82, on est en 2023, donc ça va faire bientôt 43 ans, enfin on est 40 ans, pardon, voilà, je sais pas compter. On est obligé de la garder, elle est magnifique, donc on va la garder, mais je suis fatigué, c'est normal, c'est le matin.
Je viens de terminer ma 40e année.
Voilà, c'est la fin de la 40e année, j'allais dire, donc en tout cas ça sera la 41e cette semaine. Et puis ce que nos auditrices et nos auditeurs ne savent pas forcément, c'est que Claudine vient d'avoir son anniversaire aussi, donc on lui souhaite un grand Mazal Tov pour son anniversaire. On va cacher bien sûr par coquetterie. Ouais. Par pudeur, son âge. Et donc, plus de 40 ans au sein du consistoire, j'imagine qu'avec toutes ces années, non seulement on a vu passer des présidents, on a vu passer beaucoup d'administrateurs différents, on a vu évoluer aussi le consistoire, on a travaillé dans des lieux différents, et je pense que c'est ce qui intéresse aujourd'hui tout le monde, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce que vous, Claudine, vous avez perçu un petit peu cette évolution, comment est-ce que vous percevez le consistoire aujourd'hui, est-ce qu'on a la même motivation après 40 ans que lorsqu'on commence à travailler au consistoire? Il faut se lâcher là, au micro de Radio Judaïka.
La question est, elle est de 40 ans. Il y a 40 ans de réponse. Alors, elle a évolué, bien sûr qu'elle a évolué, mais elle s'est renforcée. Donc, je pense que l'image de la communauté est encore et toujours super belle. Et je pense qu'il faut rendre hommage à tous les prédécesseurs qui ont bâti cette communauté et qui ont fait ce que vous pouvez en faire maintenant.
Alors, en 82, lorsque vous rentrez au consistoire, il me semble que le siège du consistoire à ce moment-là est encore à la rue du Vieux Marché au Vin, c'est ça?
Pas du tout, moi je suis rentrée à la communauté.
Ah, vous étiez à la communauté, voilà.
Je suis à la communauté.
Ouais, je confonds tout, il faut tout m'apprendre, c'est pour ça que c'est important.
C'était la communauté.
La communauté israélite de Strasbourg.
Exactement, et c'était Jean Kahn, le président de, comme on dit, de mémoire béni, et ça a été un très 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 grand président.
Et donc avec quelle équipe du secrétariat vous travaillez à cette époque-là?
Alors, il y a eu Odette, notre Odette nationale.
Odette, bien sûr, notre tiens qu'on pensera inviter. Parce que Odette a beau être à la retraite, elle m'écrit très régulièrement pour me rappeler que c'est l'anniversaire d'un tel ou qu'il faut prendre des nouvelles d'un tel. Et elle a un tel sens de la vie communautaire et de l'engagement communautaire qu'on l'invitera, j'espère, très prochainement dans ses studios de Radio Judaïka. Elle a beaucoup de choses à nous raconter aussi sur la communauté.
Et mon directeur, c'était à l'époque Jacques Dayan.
Jack
que je
Dayan,
salue s'il m'écoute. Et puis, comme c'est pas toujours très très bien de citer tout le monde, je voudrais quand même rendre hommage à Julien Bollac et à Perle, qui était notre collègue adoré.
Voilà, vous le dites avec beaucoup d'émotion, je sais, parce que c'était une grande amie à vous. Vous avez encore sa photo à côté de vous. Je trouve que c'est un très, très bel hommage que vous lui rendez en ayant cette photo présente dans les bureaux. Elle a donné beaucoup de son temps et de son énergie aussi à cette communauté. Je pense que tout le monde se rappelle d'elle aussi. Et c'est très bien de lui rendre hommage à ce micro ce matin. Donc ça, c'est bien sûr le début de l'activité. Donc dès le début de votre activité, vous commencez déjà dans des fonctions de secrétaire comptable ou cette fonction a évolué avec le temps ?
Ça a toujours été secrétaire comptable.
D'accord.
Voilà. Ça a toujours été, voilà.
Vous aimez Claudine, vous aimez les chiffres.
Voilà, exactement. Les mots doux aux membres de la communauté.
Les mots doux aux membres de la
communauté. Les plus émouvants, voilà. Les factures.
Les factures. Et puisqu'on parle de mots doux aux membres de la communauté, on a l'occasion, je le dis souvent et je le répète à ce micro, il y a une ambiance extraordinaire au bureau. Enfin, pour moi, c'est une grande famille, le bureau de la communauté. Et lorsqu'on se retrouve le matin, des fois, très nombreux dans ce bureau, surtout à l'ouverture des bureaux ou au-delà de ceux qui travaillent en permanence dans le bureau, il y a d'autres personnes qui viennent papillonner un petit peu pour échanger avec les secrétaires, pour déposer des dossiers. J'ai l'occasion, moi-même, de me retrouver avec entre les mains d'anciennes lettres, lorsque Claudine, des fois, on doit, dans des moments pas toujours très heureux, comme des décès, ressortir des vieux dossiers de membres, on retrouve les anciennes correspondances avec fois des lettres dactylographiées d'une autre époque, très anciennes. Et on se rend compte que le ton qui était utilisé n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, il faut quand même rassurer les gens. Et par rapport à nos vieux râleurs, il y en a toujours quelques-uns à leur dire que finalement... à l'époque, on prenait pas toujours de gants pour parler aux gens et qu'on a fait un bout de chemin. On a, je trouve, évolué à ce niveau-là dans la manière de s'adresser à nos membres et de les rappeler à leurs obligations.
Ben oui.
Pour autant, et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait qualifier Claudine, on a une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire qu'elle sait toujours rester très très ferme sur ses positions. Elle sait récupérer ce qu'on lui doit lorsqu'on lui doit quelque chose. Et je dois le dire, et je ne veux pas faire rougir Claudine, mais que Claudine est un grand défenseur de la communauté. Je pense vraiment à des plus grands défenseurs même de la communauté. Elle fait preuve d'une loyauté sans faille. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. En toutes circonstances, elle n'oublie jamais de rappeler à une personne qu'il est important de devenir membre. Cette personne n'est pas membre. Qu'il est important de soutenir la communauté à hauteur de ses moyens. Et de rappeler peut-être aux gens que lorsqu'on va leur envoyer un courrier ou leur passer un petit coup de fil pour se rappeler à leurs bons souvenirs, ce n'est pas pour les embêter, mais c'est pour leur dire que si ces personnes ont pris un engagement, il est important de le respecter, aussi bien d'un point de vue de la halakha que bien sûr d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. On aide la communauté, on n'est pas en train de vouloir soutirer absolument de force aux gens leur argent, mais tout simplement leur donner la possibilité d'être eux-mêmes acteurs aussi de cette vie communautaire. Elle ne peut pas fonctionner toute seule et cette vie communautaire ne peut pas reposer sur 10% de la communauté, il faut que ce soit plus lissé, il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
Tout à fait. C'est la responsabilité de chacun d'être membre du consistoire et de participer à la vie de la communauté, chacun à son niveau, mais d'être acteur actif. Et évidemment, ça passe par le soutien financier à l'institution.
Voilà, alors on sait que on va pas rentrer dans les chiffres, c'est pas forcément très intéressant maintenant pour les auditrices et les auditeurs. Bien sûr, les budgets ont évolué avec les époques et en fonction des moyens. Est-ce que pour autant, c'est peut-être quelque chose quand même d'intéressant, est-ce que justement l'état d'esprit des gens par rapport à cet engagement a évolué ou vous pensez plutôt qu'on serait dans une pente descendante? Voilà, par rapport à, je parle au respect des engagements, au respect des dons, est-ce qu'on a plus de difficultés à recouvrer les dons aujourd'hui en 2022 qu'en 1982 ou est-ce que c'est plutôt...
Non, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours les gens qui veulent bien donner et tous ceux qui donnent sur la pointe des pieds. Mais en général, c'est vraiment à 98% les gens sont trop, trop sympas.
Voilà, ils sont très gentils. Bah, c'est un, quand même un beau témoignage. Quelle a été la plus grande révolution ? Je pose des questions un petit peu techniques, c'est intéressant. J'imagine qu'on ne travaillait pas avec les mêmes outils en 1982 qu'en 2022. Il y a eu quand même une informatisation de beaucoup de choses. Je pense que ça fait forcément évoluer le travail.
Oui. Bah, évidemment, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'ordinateur.
C'était la machine à écrire. On faisait tout à la machine à écrire.
Les factures étaient faites à la main.
Les factures étaient faites à la main, c'est fou.
Et du coup, bah, y a eu l'informatisation et aussi l'arrivée des CERFA.
Les fameux CERFA,
donc ça aussi modifié et la façon de donner et le travail.
La façon de donner, bien sûr, le travail qui a évolué avec l'arrivée de ces CERFA. Alors c'est d'ailleurs bientôt
la saison,
c'est la saison des CERFA, puisque rappelons-le, au CIBR, les CERFA ne sont donnés qu'une seule fois pour toute l'année, ce qui simplifie le travail, mais ce qui le rend pas pour autant plus light pour vous en cette période de début d'année 2023, parce que c'est le moment de faire tous les CERFA.
C'est haute saison.
De les sortir pour pouvoir les envoyer à tous nos fidèles qui les attendent avec impatience pour pouvoir les déduire de leurs impôts. Les impôts qu'ils auront à payer en 2023 sur les revenus de 2022. On va pas faire un cours de fiscalité. En tout cas, Claudine, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir, parce que même si vous l'avez dit au début de cette interview, il y a encore des personnes qui ne vous connaissent pas, qui connaissent peut-être votre voix parce qu'ils vous ont eu au téléphone. C'est vrai, vous ne faites pas l'accueil. On a aujourd'hui quelqu'un d'autre à l'accueil. Alors bon, il arrive parfois que vous dépanniez aussi à l'accueil.
Elle va bientôt venir.
Voilà, elle va bientôt venir. En tout cas, on s'est engagé à la faire venir malgré elle aussi dans ces studios de Radio JK, parce qu'on aimerait vraiment avoir l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce bâtiment à ce micro. Mais c'était aussi un moyen de vous rendre hommage. En tout cas, c'était ma volonté aujourd'hui. C'était pas simplement de vous faire venir parce que vous faites partie du personnel de la communauté, mais c'était de vous rendre hommage. Non, c'est pas de la flagornerie. C'est très important de rendre hommage aux personnes qui sont engagées. Et surtout, aujourd'hui, passer plus de 40 ans au sein d'une association, c'est pas donné à tout le monde. Il y a très peu de personnes qui l'ont fait au sein de la même association et avec la même énergie, parce que j'ai posé volontairement la question tout à l'heure. J'ai demandé si on avait la même énergie après 40 ans que lorsqu'on prend ses fonctions. Mais moi, cette énergie, je la sens presque intacte. Alors ça fait à peine 5 ans et demi que je suis arrivé à Strasbourg. J'ai pas connu la Claudine Gutmann des années 80 ou des années 90, mais moi j'ai l'impression que cette énergie, elle est encore intacte. Vous avez le même engagement à défendre la communauté, à vouloir faire en sorte que les choses puissent aller dans le bon sens. Vous prenez autant les choses à cœur. C'est ça, c'est incroyable. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler sur un dossier un peu sensible, on vous voit prendre les choses et en discuter parfois avec passion. Voilà, ça c'est les petits secrets de ce qui se passe. De ce qui se passe dans les bureaux de la communauté, mais je crois que ça prouve à quel point tout le personnel de la communauté est vraiment engagé pour que la communauté puisse donner le meilleur d'elle-même, qu'elle fonctionne vraiment du mieux possible. Et on en profite pour saluer vos collègues, hein, Corinne, Anso, Johanna, on l'a dit, puis bien sûr Shmuel, et on terminera peut-être avec cette question. Alors ça, c'est la question piège. J'avais dit pas de question piège. J'avais dit pas de question piège, c'est vrai, Claudine. Mais je me lance quand même dans une dernière question piège, puisque maintenant, c'est Samuel, le grand patron. Est-ce que Samuel est un patron sympa ?
Ah oh, oui, formidable.
Ah, formidable. C'est dommage qu'on puisse pas mettre une caméra dans les studios de Radio JK. En fait, il y a deux caméras, mais elles fonctionnent pas. Il faudrait qu'on pense, Thomas, je sais pas si c'est réalisable techniquement, à ce que cette émission soit aussi diffusée en direct, en vidéo. Comme ça, on pourrait voir la mood de nos invités. Non. Je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Et je rends aussi hommage et on salue bien sûr Samuel qui est au four et au moulin. En tout cas, moi je peux en attester, je peux le témoigner. C'est loin d'être un tyran, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs Claudine sait très très bien se défendre et elle sait dire les choses. Et Samuel ou pas Samuel, lorsqu'on n'est pas d'accord ou lorsqu'on veut exprimer sa position, on l'exprime. Il y a vraiment une ambiance très 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 démocratique dans les bureaux du consistoire. Merci beaucoup vraiment Claudine.
Est-ce que je peux donner le mot de la fin?
Le mot de la fin, il était prévu, il vous est réservé.
Ah.
Claudine, vous pouvez passer des dédicaces. Vous pouvez...
Non, oui, oui, je voulais juste citer Enrico Macias, le
grand chanteur. Je m'attendais pas du tout à ça comme mot de la fin.
Je voulais juste le citer et citer une de ses chansons magnifiques qui s'appelle « Donner, donner ». Alors, je ne sais pas si en régie vous l'avez, mais en tout cas, ce serait bien de la passer et de terminer le...
Eh bien, puisqu'à Radio Judaïka, on a l'habitude de réaliser tous les vœux des auditrices et des auditeurs, mais également des invités, et qu'on a un technicien remarquable en la personne de Thomas, eh bien, nous allons terminer cette émission avec la chanson d'Enrico Macias, « Donnez, donnez, Dieu vous le rendra ». Je vous remercie d'avoir encore été présente et présent à l'écoute de Radio Judaïka pour cette nouvelle émission de la Com en Live. On vous espère toujours plus nombreuses et plus nombreux. Shabbat Shalom. Nous commençons demain la lecture d'un nouveau livre, le livre de Shemot, et on espère que ce sera une nouvelle page magnifique pour la communauté. À la semaine prochaine.
Un, dos, tres, dale.
Todo es la música.